Général Laurent Michon, bonjour. Vous êtes commandant de la force Barkhane depuis le 28 juillet dernier. Merci de nous accorder cet entretien. Notre première question est la suivante. Le président français Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane ainsi que sa transformation profonde. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement?
Tout d'abord, elle va réduire en volume. Dans quelle proportion et selon quelle courbe, c'est ce qu'on est en train de décliner. On va transformer Barkhane, on va changer le format, on va avoir plus d'Européens au sein de Takuba, on va peut-être changer le nom de Barkhane, et ce ne sera plus tout à fait la même opération, parce qu'on va vraiment faire un effort de coopération, prenant en compte la menace. La menace, c'est l'État islamique, Al-Qaïda, et qui agit par métastases, qui peuvent avoir, d'ailleurs c'est leur agenda déclaré, hein, qui peuvent avoir pour ambition d'essayer de multiplier les métastases, notamment vers le sud. Donc on s'adapte à ça, en réalité. Le simple constat que l'ennemi bouge et s'adapte face à nous fait que c'est en permanente évolution et que là, on est arrivé effectivement à un moment où les Européens venant assez massivement, enfin en tous les cas en nombre de pays intéressés pour s'engager avec nous aux côtés des pays sahéliens, ça a un vrai changement de donne quand même.
Mais alors pourquoi avoir choisi de fermer les bases de Tombouctou, Kidal et Tessalit?
Quand on se réarticule et que on veut réduire l'empreinte militaire en termes de nombre de soldats, on ne peut pas être partout, sinon on va être partout, mais être capable d'agir nulle part. En réalité, on va se disperser complètement. Donc, dans la réarticulation, à Tombouctou, comme à Kidal et Tessalit, on a un dispositif qui est ce qu'il est aujourd'hui, avec des unités assez limitées en volume. Et donc, aujourd'hui, la MINUSMA et les FAMAS sont présentes. En fait, la mission de sécurisation de ces villes-là est assurée par ces unités-là. Et je pense de façon durable. Enfin, en tout cas, on le souhaite tous, mais je suis assez confiant.
Concernant la Task Force Takuba, quel sera son mandat?
Ce sont des forces spéciales. Chacun comprendra bien que les différentes capitales européennes ont un intérêt à mettre des troupes particulièrement aguerries et très efficaces sur le volet militaire. Bon, c'est la mission en général d'accompagner dans des situations non stabilisées des armées locales des différents pays. Donc ils sont vraiment sur un format de troupes pas énorme non plus en volume, mais capables de s'adapter vite avec des moyens un peu plus riches que des parties conventionnelles. Et de s'adapter vite à l'accompagnement d'unités maliennes qui elles-mêmes sont plutôt nouvelles et nouvellement déployées et prolongées. En fait, on fait le pari que ce couple-là, j'allais dire, Takuba avec des unités solides européennes et des unités légères maliennes qu'on aide les FAMA à mettre sur pied, qu'on forme, qu'on équipe et qu'on accompagne sur le terrain, on fait le pari que ça marchera bien ou plutôt de mieux en mieux.
Et que cela va-t-il apporter de plus à Barkhane alors?
Ce que ça va apporter, c'est en tous les cas de la durée. On tient à ce que les Européens qui s'engagent s'engagent avec des durées assez longues, à être présents à nos côtés et avec les FAMA de façon durable aujourd'hui dans l'IPTACO, qui est l'effort initial. Si jamais il y a un appétit européen qui se poursuit, on pourrait imaginer que Takuba s'étende.
Cette task force qui est à Takuba est un véritable laboratoire, comme disent certains. Pourquoi une telle force?
Laboratoire. Effectivement, à ma connaissance aussi, c'est la première fois qu'on a un tel canevas de forces européennes avec des Européens qui ont demandé à être sous commandement français et à rester sous commandement français. Donc Takuba n'a pas vocation, dans notre esprit à tous, à devenir une opération de l'Union européenne, par exemple. Ce n'est pas l'idée. C'est sous commandement français parce qu'on peut garantir un certain nombre de choses sur le soutien en général, l'appropriation, le partenariat avec les Maliens, le soutien logistique, les échanges de renseignements. C'est ça qui intéresse les Européens qui viennent. Et donc on est crédible et donc les Européens veulent s'engager, mais pas simplement pour former ou entraîner, mais pour aller au combat avec les unités maliennes. Et puis vis-à-vis des Maliens, je pense que c'est quand même bénéfique, parce que ça veut dire qu'il y a d'autres pays que la France qui s'engagent à leur côté pour vaincre ou pour combattre l'État islamique au Liptako, et puis peut-être demain s'étendre un peu aux Gourmands.
Existe-t-il des mécanismes de passation entre le pilier formation exécuté par l'EUTM et l'accompagnement au combat que réalise Barkhane ou encore Takuba?
Oui, absolument. Quand moi, par exemple, je prends mes fonctions, la première chose que je fais, c'est bien sûr aller voir le SEMGA malien, avec qui je travaille, évidemment sur l'accompagnement des FAMA, mais aussitôt après, d'aller voir l'IUTM, qui chronologiquement contribue à la formation et à l'entraînement à la fois individuel ou collective des unités FAMA. Vous savez que les FAMA recrutent et montent en volume leurs capacités aussi. En fait, on répond aux besoins des FAMA, hein, en réalité. Donc l'IUTM forme les unités qui ensuite sont entraînées, puis sont déployées. Et là, nous, Barkhane, nous prenons le relais avec des unités françaises ou avec Takuba. C'est le même mécanisme. C'est-à-dire que, par exemple, ces ULRI, ces unités légères sur pick-up et moto, nouveau, l'Europe contribue à équiper ces unités, les forme, les met sur pied, et lorsqu'elles sont déployées, c'est avec nous qu'elles vont au combat avec d'autres pays européens qui acceptent de prendre ce risque-là.
L'Union européenne va fournir le matériel aux unités légères de reconnaissance et d'intervention, les ULRI, mais quel type de matériel?
L'Union européenne refuse de financer un certain nombre de choses et accepte d'en financer d'autres. Il y a des financements qu'on peut obtenir pour des choses non létales, mais par exemple, qu'on parle d'entraînement et de formation individuelle, l'Union européenne, IUTM, est capable de se doter d'installations, etc., pour entraîner les FAMAS. Ça, c'est autorisé. Donc, on peut construire un bâtiment ou un champ de tir pour entraîner les FAMAS dans leur formation initiale. Et donc, on joue sur ce segment-là et puis après, on complète avec les autres dispositions.